du Cohen, hein, mais d'exhorter que même ceux qui ne sont pas encore bons pour le service par l'âge sont soumis à cette mitzvah. Et mort va martaler. Léazir, Adolim, Alaktanim. Alors, relisez maintenant avec moi, avec les Ta'amim. Il faudra qu'un jour on vous installe un cours de Ta'amim pour que vous puissiez lire les versets avec le sens en hébreu. Vous savez que c'est les Ta'amim de la Torah, les accents dans lesquels on chante. Enfin, ce n'est pas un chant vraiment, c'est une cantillation, on cantille la Torah. C'est ça qui donne le sens à la phrase. On ne chante pas de la même manière si c'est une affirmation, si c'est une interrogation, si c'est une exclamation. Les césures sont indiquées par les Ta'amim. Ça y est. Et le mot de Ta'am en hébreu a trois sens fondamentaux. Ta'am, ça veut dire d'abord la signification, ça veut dire le goût, et ça veut dire l'accentuation de Ta'am. Alors ici, dans le sens de l'accentuation, regardez bien, vous avez Emor et la Kohanim, Marir Tarha, ça fait un ensemble, Emor et la Kohanim, Bene Aaron. Alors on traduit, dit au Kohanim, vous êtes les fils de Aaron. Voilà ce qu'il faut dire au Kohanim, Bene Aaron. Et parce que vous êtes les fils de Aaron, les Nefesh, Loïtama et Amav, Aaron, lui, que vous portez en vous, ne doit pas être rendu impur au contact du cadavre. Je reprends en hébreu et en français. Vous suivez? Emor et la Kohanim, dit au Kohanim, Ben Aaron, fils d'Aaron. Dis-leur, vous êtes les fils d'Aaron. Vermatalehem, alors tu leur diras, les nefesh, loitama behama. Aaron ne doit pas être rendu impur au contact d'un cadavre. Alors là, il y a une idée importante, c'est que les descendants d'Aaron portent Aaron en eux d'une manière ou d'une autre. Ça vous explique pourquoi. Un Kohen, quel que soit son comportement, a droit aux honneurs du Kohen. Parce que ce soit diagnosticable ou pas, que ce soit visible ou pas, il porte en lui l'identité de son ancêtre. Je dirais deux choses. Il y a une seule restriction, c'est si le Kohen a été assassin. À ce moment-là, il n'a plus les honneurs du Kohen. Et puis, une deuxième chose, c'est que c'est valable aussi pour tout un chacun. Tout un chacun porte, comme les Kohanim portent en eux l'hérédité de Aaron, tout un chacun porte en lui l'hérédité de l'ancêtre. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, nous sommes responsables, finalement, d'une identité de lignée qui s'est distribuée depuis le fondateur de la lignée à travers toutes les ramifications, et c'est indélébile et c'est irréversible. Même si dans la culture occidentale, c'est pas visible, mais dans les cultures traditionnelles, ça va de soi. Le lien aux ancêtres, c'est réel. Et je vais vous dire plus, je crois que la psychologie moderne, plus que la psychologie, l'anthropologie moderne en Occident est en train de redécouvrir ça. Le conditionnement de l'hérédité est 99% de notre identité. Seulement, on a perdu cette science de savoir comment diagnostiquer, de quelle branche ça vient. Est-ce que ça passe par la grand-mère du grand-père ou est-ce que ça passe par le grand-père de la grand-mère? Qu'est-ce qui s'est dévoilé comme caractère récessif ou comme caractère dominant? Mais c'est une identité d'une neshama à l'origine qui est en jeu dans toute une myriade de nefashot de la lignée. Et chaque membre de la lignée est shayach. Comme on dit shayach en français, est concerné. Bon, vous comprenez en hébreu. Okay? Alors, voilà ce qu'on apprend donc de ce verset. Ça va pour le verset. Alors, il y a à l'origine une kedusha de Aaron. Cette kedusha de Aaron est confiée à sa descendance, et donc elle, cette kedusha de Aaron, ne doit pas être rendue impure au contact du cadavre, comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà pour le premier sujet. Vous allez me dire s'il n'y a pas de questions là-dessus. Tout va bien? Bon, alors on prend un autre verset de la paracha. Vous allez prendre le verset 28 du chapitre 22. On va commencer au chapitre 27. Au verset 27 du chapitre 22. Un verset avant. Quel livre il est déjà?
27. C'est pas 27.
Voilà. Ça, c'est le premier verset d'une paracha que l'on dit les jours de fête. et qui récapitule toute l'ordonnance du calendrier des fêtes. Ça commence à Shor au Kesev au Aez qui y valait. Verset 27 du chapitre 22. C'est-à-dire Kabet Kabzaï. Vous y êtes? Donc, alors, lorsque un bœuf ou un mouton ou une chèvre, comment on dit le mâle de la chèvre? Non, mais est-ce une chèvre? Il n'y a pas chèvre masculin et chèvre féminin? Non, chevreau, c'est le petit. Chevreau, c'est Gédiaz. Le chevreau de la chèvre, c'est Gédiaz. Attendez, il y a les ovidés, les bovidés, et puis pour les chèvres, comment on dit?
Les caprins.
Les caprins, j'avais oublié. Qui y valide lorsqu'il sera enfanté, Veraï Hashiratiamim Taratimo, il sera 7 jours avec sa mère, Miyom Hashem Nivala, et à partir du 8e jour et au-delà, Yeratse le Korban Nishel Hashem, il sera agréé en sacrifice à Dieu. Ça veut dire interdiction de sacrifier un petit d'animal pendant la première semaine de sa naissance. Le 8e jour seulement, il est bon pour le service du sacrifice. Et on arrive à notre verset. Veshor, c'est et un bœuf ou un agneau. Oto ved beno, lui et son fils, lotishratu beyomechad, vous ne le sacrifierez pas le même jour. Au sujet de cette mitzvah, il y a une grande controverse chez les grands commentateurs sur la raison de cette mitzvah. Je vais vous schématiser la problématique. Nous allons étudier d'abord le verset et ensuite nous allons lire dans le commentaire qu'on vous a distribué ce que Nachmanide enseigne sur l'opinion de Maïmonide. J'espère, puisqu'on a à peu près une demi-heure, j'espère qu'on arrivera à boucler le sujet, mais je voudrais être sûr que ce soit bien clair. N'hésitez pas à m'interroger s'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair. Voilà, le problème est le suivant. Ce problème est rattaché à un autre problème que vous allez voir dans la référence qu'on vous a donnée, qui est le problème du kantsipo, le nid de l'oiseau. Et dans le livre de Dvarim, et c'est donc au chapitre 22, vous avez dans la première page, au verset 6, Kavet Vav, la mitzvah suivante. Qui ikare kantsipo lefanecha? Si il t'apparaît, si tu rencontres un nid d'oiseau devant toi, vaderech en chemin, becholait, sur tout arbre, ou à l'aret, ou sur la terre, et forhim ou betsim, des poussins ou des œufs, vehaem ou betsim, à la forhim ou à la betsim, et que la mer couvre sur les poussins ou les œufs, lotikahaem à la banim, tu ne prendras pas la mer sur les enfants. Littéralement, quand elle est sur les enfants, mais ça veut dire avec les enfants. Shalé arte shalaretaem, renvoie et tu renverras la mer, vetabanim tikachlach, et tu prendras les enfants pour toi. Et alors, cette question que je vais définir est étudiée surtout sur ce verset, mais on cite le nôtre. Shor, on sait, oto velbenon tishrato veyomecha, qu'il est interdit d'abattre un animal et son petit le même. Et alors, la controverse porte sur le fait suivant. Pour quelle raison cette mitzvah nous est donnée? Pour quelle raison y a-t-il ce cas particulier d'une mitzvah qui concerne une catégorie particulière d'êtres vivants? Une première thèse consiste à dire, c'est parce que Dieu a pitié de ses créatures. C'est la thèse en général de Maïmonide, ou du moins celle qui semble être déduite d'un enseignement de Maïmonide. Vous verrez que ce n'est pas évident que Maïmonide ait dit ça comme ça aussi, simplement. Je répète la thèse, que c'est Dieu qui a décidé d'avoir pitié du nid de l'oiseau. Et la deuxième thèse consiste à dire que les mitzvot n'ont pas de ta'am de ce genre. Les mitzvot, c'est xéra, c'est une décision. Xéra tamelère, c'est une décision du roi. Et cette controverse se trouve dans la Gemara de Brachot. Je ne vous ai pas fait tirer la référence, mais je vous la donnais de mémoire. C'est une Mishnah qui interdit certaines formules de la prière. C'est une formule de la prière que la ferveur du fidèle pourrait lui faire improviser, parce qu'il y a eu un temps où il y avait une certaine latitude d'improviser les formules de la prière. Et on a perdu cette capacité, mais déjà en ce temps-là, vous savez, c'est une des choses les plus difficiles de savoir formuler une prière nouvelle. C'est les grands rabbins d'Israël de la génération de la fondation de l'État qui ont formulé la prière pour la Médina, la prière pour Tsahal. Et dans l'ordre de la difficulté de l'étude, le plus facile à étudier, c'est le Talmud. Plus difficile, c'est la Torah, et plus difficile, c'est les textes de la prière. Ça vous paraît peut-être paradoxal. Je vais approfondir le paradoxe. Le plus facile, c'est les textes de Kabbalah. C'est très facile à comprendre, mais on n'y comprend rien. Non, je ne plaisante pas. Le texte est très facile. Mais personne ne peut savoir ce que ça veut dire si quelqu'un ne dit pas ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. Mais c'est facile à lire. Ceux qui étudient un peu les textes de Kabbalah, vous allez en apercevoir. Ça a l'air d'être une dracha très simple, mais il faut des années pour comprendre quatre lignes. Mais le texte est facile. À part ça, le texte du Talmud est beaucoup plus difficile. Pour arriver à établir la traduction d'un texte du Talmud, il faut une étude profonde. D'ailleurs, les Talmudistes ne disent pas « je vais étudier », ils disent « je vais lutter ». Et certains disent même « je vais pleurer pour comprendre ». Le pshat. Et après seulement on étudie, il faut qu'on s'est traduit. Mais le texte de la prière, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, c'est pas n'importe qui est capable de formuler des prières. Je suis toujours épouvanté de voir ces petits rabbins ou rabbines chez les libéraux qui se mettent à rédiger des prières. Je vous en prie. En tout cas, pour revenir au texte de la Gemara, la controverse est la suivante. La Mishnah dit Haomer al Kantsipo Yagiro Rahamecha, celui qui dit ô toi dont la miséricorde est allée jusqu'au nid de l'oiseau, sous-entendu, aie pitié de moi. Oui, c'est beau, hein? Mais Shatkinot, on le fait taire. Bon, c'est-à-dire, si le Chazan improvise une prière en disant, et apparemment c'est très beau, et qu'est-ce qui le motive de dire ô toi dont la miséricorde est allée jusqu'au nid de l'oiseau? Il y a un verset que je viens de vous lire. Si tu rencontres un nid d'oiseau, elle ne prend pas la mer sur les petits. Donc il y a un indice que Dieu a un rahamim particulier sur le nid de l'oiseau. Bien faire attention à ça. C'est une discussion de Talmud très profonde. Vous avez des religions qui ont un culte pour le nid de l'oiseau. Vous savez, ces religions représentent le Saint-Esprit sous une forme de colombe, la paix sous une forme de colombe. Je ne sais pas si vous savez que la colombe, c'est l'oiseau le plus cruel qu'il y a dans la volière. Je ne sais pas si vous savez ça. Non. Vous ne savez pas?
Non.
C'est un oiseau très cruel.
Oui.
Mais oui.
Eh ben.
Allez, étudiez ça, vous n'avez jamais vu des colombes.
Le mot yona veut dire en dessous.
Oui, nachon. Yona, ça veut dire le fil de l'épée. Et vous ne savez pas ça. Et il n'y a pas pire que la moitié d'une colombe. C'est des hatsiyonim. Et alors, en tout cas, pour revenir, vous ne connaissez pas ces choses-là. C'est vrai, vous n'êtes pas à l'école israélienne, moi non plus, mais mes petits-enfants, oui. En tout cas, pour revenir au sujet, vous avez ces imageries qui représentent le Saint-Esprit sous une forme de colombe. C'est dérivé d'un culte païen de l'Antiquité. Il y avait des communautés qui dessinaient une colombe à la place de la mezouza. Vous ne savez pas toutes ces choses-là. Hein. Oubliez. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, la Gemara discute. Pour quelle raison on fait taire quelqu'un qui prie une si belle prière? Il y a deux opinions, très amoureux, chez les amoureux. Il y en a un qui dit, c'est Metil Kina Bemaase Bereshit, parce qu'il introduit la rivalité dans l'œuvre du commencement. Ça veut dire que Dieu aurait eu pitié du nid de l'oiseau et pas des autres êtres vivants. Et on est en monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Dieu de la colombe et il y a les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très profond d'ailleurs comme indication. Parce que ça brise le monothéisme. Et pourtant, il y a un verset particulier pour le nid de l'oiseau. Vous voyez comment un raisonnement de sensibilité religieuse naturelle peut être païen. Voilà. C'est la sensibilité religieuse très poétique d'ailleurs. je vois déjà un Alfred de Musset ou un Alfred de Vigny, ou même Sully Prudhomme, faire un poème sur le nid de l'oiseau, protégé par le jus de la mer. Vous voyez à peu près le problème. Ça fait très beau, il dit, on le fait taire. Première raison, parce qu'il brise la souveraineté du Dieu 1. Il introduit la jalousie qui n'a la rivalité chez les créatures. C'est important, hein. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais je crois que l'idée est simple. La deuxième thèse consiste à dire « Chez Rosé, Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Rahamim, Ve'enan et Lakzeo. » Car celui qui parle comme ça fait des attributs de Dieu, des émotions, alors que ce sont des décisions de sa volonté. Je répète en hébreu, vous comprenez bien. « Chez Rosé, Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Rahamim, Ve'enan et Lakzeo. » Or, Maïmonide, en parlant de cette mitzvah du nid de l'oiseau, prends pour exemple notre autre mitzvah de l'animal et son petit le même jour interdit pour dire que certains vont objecter à l'explication qu'il donne que c'est parce que Dieu a protection sur les animaux que la Gemara a dit que les décisions de Dieu ne sont que des décisions, il ne faut pas chercher des motivations affectives. Okay. Et Maïmonide dit, mais nous pensons que les mitzvot ont un ta'am et que ce n'est pas des xéros. On fait dire, on a l'impression qu'on fait dire à Maïmonide quelque chose qu'il n'a pas pensé vraiment. Parce que Maïmonide, c'est lire la Gemara. Alors nous allons lire comment Nachmanide va citer Maïmonide et comment Nachmanide va répondre à notre question. Comme le commentaire est assez long, et je ne voudrais pas prendre trop de temps, on va lire les premières lignes et la fin du commentaire, mais je vous ai donné finalement les données du problème et nous aurons la réponse à la fin. Je vais quand même reprendre ça, parce que c'est un petit peu embrouillé peut-être. Vous avez bien suivi le raisonnement, Ken? Soit on dit que si Dieu nous a donné cette mitzvah, ça implique qu'il a une miséricorde pour les animaux, l'objection avec eux et les autres. Nous avons un verset qui dit, on le dit dans la prière, d'ailleurs, « Melachem alkol abiriot » Il a compassion pour toutes ses créatures. Alors on n'a pas le droit de dire en particulier pour le nid de l'oiseau ou en particulier pour un animal et son petit. Est-ce que c'est clair, l'objection? Et d'autre part, la deuxième thèse qui dit, on fait taire un chazan qui priait comme ça, toi dans la miséricorde jusqu'au nid de l'oiseau, et c'est une motivation beaucoup plus profonde de la réfutation. C'est parce qu'on se met à chercher des motivations, des décisions de Dieu. Les décisions de Dieu n'ont pas de motivation affective, c'est sa volonté. Et effectivement, si on commence à chercher à interpréter les motivations des décisions de la Torah, on va suivre des modes qui changent à chaque mode. Chacun va y voir la mode culturelle de son temps. Est-ce que c'est clair? Vous avez tous ces modes successifs. Le judaïsme est un humanisme, le judaïsme est un existentialisme, le judaïsme est un, je sais pas quoi, un personnalisme. Et personne ne pense que peut-être le judaïsme, c'est le judaïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand c'est la mode à l'humanisme, les humanistes sont juifs. Mais quand c'est plus la mode à l'humanisme, les juifs sont plus juifs, parce qu'ils sont plus humanistes. Vous avez compris ce que je veux dire? On s'accroche à des trains dont les locomotives ont des roues carrées. En tout cas, pour revenir au sujet, on va tout de suite lire comment... Nachmanide cite Maïmonide. Et après, nous aurons la réponse de Nachmanide. Mais je voulais vous avertir à l'avance. Ne croyez pas qu'on peut simplement, de façon aussi simple, opposer des géants comme Nachmanide et Maïmonide. Il semble bien que ce n'est pas exactement ce que Maïmonide a voulu dire. Mais vous savez, en ce temps-là, on connaissait l'opinion des maîtres souvent par les citations de leurs élèves. Et je ne sais par expérience que les citations des élèves. Bref, chaque fois à la fin de l'année, dans les écoles, comme Orsay ou Marianot ou ailleurs, bon là vous êtes sur la place publique, je demandais toujours aux élèves de me remettre leur cahier de notes. Parce que c'était évident que de la première année jusqu'à la fin, tout était faux. Je sais pas si c'est clair. Alors faites une fois un exercice. Vous allez reprendre vos notes d'un cours que vous avez entendu 3 mois avant. Et vous allez voir, vous-même, vous allez rien comprendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, Je dis souvent, il faut faire bien attention à ça. On étudie avec sa tête. On n'étudie pas avec un cahier. Bon, s'il faut des repères, on écrit des repères. Mais d'une manière telle que n'importe qui, et surtout pas celui qui n'aurait pas écouté le cours, comprenne. Si on prend un langage codé, soi-disant, ça a été dit pour moi, et pour moi seulement, personne ne va comprendre, mais le lendemain, c'est lui-même qui ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je reviens au... Vous allez me demander pourquoi j'ai tout ça. Ben, figurez-vous que j'ai aussi été élève. Alors, on revient au sujet. Voilà, vous allez prendre donc la page 260, et là où j'ai souligné, dans Ramban, là où j'ai souligné. Ah, je vais prendre une minute. J'en ai une là. Alors, qui carré Kansipa les fanères? Je commence à lire Narmanine. Comme d'habitude, simultanément, on est en français. Gamzu, Mitzvah, Mebuheret. Cette Mitzvah aussi est expliquée à propos de Oto Ved Beno Lotishratu, notre verset à nous. Lui et son petit, vous ne sacrifierez pas le même jour. Vous y êtes? Beyom Echad. Qui Ataram Mishneem. La raison pour les deux, les Bilti Eyot. L'anou, l'évarsari, l'on l'énarchim. La raison pour les deux est que nous ne soyons pas habitués à la cruauté et pas à la compassion. Vous voyez la réponse de Narmanine. C'est pas parce que c'est Dieu qui a compassion pour l'animal en question, c'est pour que nous ne prenions, ne contractions pas le risque d'être imperméable à la compassion et de devenir cruel. Vous avez compris la différence? O, shelo yatir akatu la asot ashrata la akor amin. Deuxième explication, c'est moi qui ai dit deuxième explication, mais le Rambam veut dire, il faut y ajouter aussi ceci, que le verset ne nous permet pas de risquer une destruction d'une espèce. Si on tue un animal et son petit le même jour, c'est le commencement d'une attitude de génocide. C'est l'espèce qui est... Vous savez, c'est clair? Donc, Afralpish et Itirashrita, bien que le verset a permis l'abattage. Beminaou dans cette espèce. Veine, Ahereg Aemer Bani Beyomechad, mais l'assassinat, enfin, Ahereg ici, on n'assassine pas une bête, comme on dit. Oui, bon, si vous voulez. De la mère et des enfants le même jour, Olokerota Biot Laem Dro, la ouf, et ou bien s'il les prend alors qu'ils ont la liberté de voler, de s'envoler, Keilu Yachritamin, c'est comme si ils détruisaient l'espèce elle-même. Vekata Vara va mourir. Et le maître du Moré, c'est Moré Nebuchim, c'est Maïmonim, okay, a écrit, qui ta'am Shilua Haken, que la raison du fait de renvoyer la mère de son nid, mais ta'am Otovel Benolotishratu, et de notre verset, lui et son petit, je ne l'abattrai pas le même jour, que de l'azir, selon Ishrota Ben, Benaem, afin de nous recommander de ne pas abattre l'enfant en présence de sa mère, qui est la béhémoth d'Aga Gedola, car il y a aux animaux le même souci, le même grand souci à ce sujet. Ren est fraîche, il n'y a pas de différence. Ben, vous avez la suite du Rambam ici. Ken. Rambam. Il n'y a pas de différence, Ben d'Agata Adam et d'Agata Béhémoth, entre le souci de l'homme et le souci des bêtes, al-Benéhem pour leurs enfants, qui a Avataem. Car l'amour de la mère, Anota, l'Ibn Evitna, et sa tendance vers ce qui la pousse vers les fils de ses entrailles, et non, il me sechel, ne dépend pas de l'intelligence, il y a des bourdes, la parole qui caractérise l'homme. Abal, hum, il frôle à quoi, hamarchava, ametsuya, va behemot. Mais procède de la conscience qui se trouve aussi chez les animaux, car chez Rimetsuya Badam, de même qu'elle se trouve chez l'homme. Là, Ramban cite Maïmonide, c'est clair? Et la thèse, ça consiste à dire que la Torah fait attention aux sentiments de la bête. Vous y êtes ? Donc, Vechel, en Ikaraïsou, Beoto Velbeno, Ramino, Beoto. Et d'ailleurs, l'essentiel de cette interdiction, lui et son fils, ne concerne que lui et son fils. Beoto, Abal, Akol, Al-Haka, Yutar, Nachon, Barbour, Shalom et Tarzer. Mais tout, l'essentiel de cette explication, c'est à comprendre afin que nous ne devions pas nous cruels. Ça, c'est l'opinion de Ramban lui-même. Il dit, mais en réalité, c'est pas pour ça que la Torah l'a interdit, c'est pas parce qu'on doit faire attention aux sentiments de la bête, c'est pour que nous ne devions pas cruels. Son argument est un peu plus loin, il dit, parce que si la Torah avait fait attention aux sentiments de la bête, elle n'aurait pas seulement interdit qu'on abatte un fils et sa mère le même jour, et comme dit Rambam, en présence de sa mère. Elle aurait interdit l'abattage purement et simplement. Puisque un animal ressent, sent que si on va l'égorger ou pas. Bon, là j'aurais voulu ouvrir une parenthèse, mais je n'ai pas le temps malheureusement. Mais quand même, je vais vous dire très brièvement, et je vais essayer de vous l'expliquer par une anecdote dont je me souviens. Je m'étais occupé une fois d'une colonie de vacances il y a très longtemps, en Kabylie. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent où est la Kabylie. C'est du côté d'Alger, sur les montagnes. Et les Kabyles sont des Berbères. Et on rappelle, la colonie de vacances était un paysage d'une beauté extraordinaire dans les montagnes. Et tout à fait, quand on quitte la plaine, alors on quitte le peuplement arabe, on arrive au peuplement berbère. Et ils ont vraiment le paysage et le comportement des hommes, ça fait penser à des paysages de Grèce, d'ailleurs, en Kabylie. Je vois, il y a des Algérois parmi vous. Je ne sais pas si vous savez où c'est Talaguilef. Ça veut dire quelque chose ? Non, ce n'est pas grave. Si un jour on reconquiert l'Algérie, vous irez visiter Talaguilef. Et alors, il y avait une colonie de vacances musulmane en même temps. Et alors, on avait bien recommandé aux dirigeants de la colonie que les bêtes que nos shochatim abattaient et les bêtes que leurs shochatim abattaient, qu'on ne les mélange pas, parce que ce n'est pas la même shrita. Et puis un jour, ils ont mélangé les poumons des bêtes. On m'a appelé, affolé, comment on va faire pour les reconnaître ? Je dis, c'est très simple. Je rentre dans la pièce, je dis, ça c'est à eux, ça c'est à nous. Comment tu sais ? C'est très simple. La shrita que nous avons fait que la bête ne souffre pas quand on la bat. Ce qui fait qu'il n'y a pas de révolution sanguine qui engorge les poumons. Tandis que chez eux, c'est engorgé de manière telle que les poumons sont pleins de sang. Et alors, ça m'a donné l'occasion d'un cours de cacheroute au Talab. C'est comme ça que ça s'appelle le Shohait chez eux. Je ne sais pas si ça l'a converti au judaïsme, mais enfin, il était très impressionné. Et alors, je lui ai demandé pourquoi. Vous savez comment ils abattent leurs bêtes ? Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils prennent le mouton, par exemple, et ils lui tournent la tête du côté de la Mecque, et ils lui parlent à l'oreille. Et la bête se couche et attend qu'on l'égorge. Alors j'ai demandé, pourquoi tu leur parles ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Il dit, je leur explique que c'est nous qui allons la manger, ils sont fiers, alors ils se laissent faire. Non, mais c'est vrai. ils leur disent des choses, en arabe d'ailleurs, qui rassurent la bête. Mais c'est pour vous dire que la bête ressent. D'ailleurs, vous avez dû vous remarquer, si vous êtes en vacances dans la campagne, si la fermière attrape un poulet pour égorger, comme ils ont l'habitude, comme ça, vous savez très bien. Vous savez très bien comment ça se passe dans les campagnes. Vous savez très bien que la bête le ressent. Alors, oui, donc la précision que donne le Ramban, c'est pas parce qu'on fait attention aux sentiments de la bête, et ça voudrait dire que Dieu qui a donné la Torah à une motivation affective pour l'animal, en réalité c'est pour que nous nous habituions pas à la cruauté, et ça signifie donc que y a une raison à cette mitzvah. Je vais aller prendre maintenant, avec quelle heure il est ? Oui, on est arrivé à l'heure. Hein. Je vais prendre maintenant les dernières lignes que j'ai soulignées. Voilà, après il y a toute une discussion très intéressante, mais enfin, vous l'avez dit parmi vous. Vous voyez, Vechen, les dernières lignes que j'ai soulignées. Je lis Vechen, Mashé Amrou, ce qu'ils ont dit dans la Gemara, les filles, chez Rosé, Mizotav, chez la Kajoua, Hurahamim, Venan et Akzeot, que la raison pour laquelle on fait taire celui qui dit, toi qui as miséricorde du nid de l'oiseau, pourquoi on le fait taire? C'est parce qu'il fait des attributs de Dieu, des émotions, alors que ce ne sont que des décisions de la volonté. L'Omar, chez l'Ochas, Aïr al-Kamsipo, et cela voudrait dire que Dieu n'a pas eu pitié du nid de l'oiseau, Velo, Yahou, Rahamav, Aloto, Vedbeno, et que sa miséricorde n'est pas allée en particulier sur l'animal et son petit, interdit de les abattre le même jour, chez Nahamav, Mengei, Mebaraya, Nefesh, parce que sa miséricorde ne va pas aux êtres biologiques, Abahamit, animal, Limnoa, Otanu, Mina, Asobahem, Sorchenu, de nous empêcher de nous en servir. Si c'était le cas, on nous aurait empêché la shrita de manière pure et simple. Sheim keena yaor sera shrita, car si l'on est ainsi, la shrita serait interdite. Avat ta'am amenia, mais la raison de cet empêchement, la mère d'otanou midata rahamanut, c'est de nous enseigner à nous la modalité de la miséricorde, veshelon et arzer, et que nous ne devenions pas cruels, qui arzariut tit pachet banefesh. Car la cruauté s'étend dans la conscience, dans la personne de l'homme, qui a droit, comme on l'apprend, mitabahim, shohate ashavarim, des tabahim, des bouchers qui abattent les grosses bêtes, ashavarim agdolim, rachamonim, etc. Et alors là, je terminerai sur cette indication. En fait, il faut savoir qu'effectivement, les garçons bouchers, ceux qui travaillent dans les abattoirs, d'une façon générale, sont bestiaux, comme les bestiaux dont ils s'occupent. Mais, précisément, pour la Torah, les shochatim sont tout le contraire. Oui, là, il fait allusion aux marchands de bestiaux et à ceux qui s'occupent dans les abattoirs chez les goyim. Je crois que c'est un thème de la littérature goy en général. Si on veut donner un exemple d'une brute sanguinaire, alors on voit tout de suite un garçon boucher et son grand sakine de mechabel palestinien. Si vous voyez ce que je veux dire. Et alors que, au contraire, moi j'ai beaucoup étudié pour ce problème. J'ai moi-même appris la shrita. Alors ça m'a beaucoup servi pendant la guerre, c'est pour ça que je suis pas mort de faim. Les shochatim en général sont des gens les plus pacifiques qui existent. Alors si vous avez un shochet bestial, sachez que c'est pas normal. Je parle des juifs. Et je vous donne l'exemple de mon grand-père, je me souviens très bien, qui était le maître des shochatim dans sa ville. Il s'évanouissait chaque fois qu'il voyait du sang. Donc il était incapable d'être shochet. C'est lui qui leur enseignait comment on devait faire la shochet. Comment on devait faire la shrita. Bien, alors on va s'arrêter là. Ken.
Du point de vue de la cruauté, est-ce que ce n'est pas plus cruel de tuer la mère ou les enfants devant l'un ou l'autre?
Mais c'est ça qui est interdit.
Et comment on peut prendre sans tuer? D'après ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris.
Non, c'est interdit de tuer un fils et sa mère le même jour.
Oui.
Devant ou pas devant?
Non, mais est-ce que ce n'est pas plus cruel de tuer seulement la mère et de laisser les enfants sans mère?
Au bout de 7 jours.
Ça dire.
Non, c'est pour ça que la Torah précise.
Oui.
Au bout de 8 jours, votre objection tombe. Et d'ailleurs.
Au bout de 8 jours.
Parce qu'il y a autonomie déjà de l'enfant et il est allaité par n'importe quelle mère du troupeau. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les fermes. Lorsque un petit animal n'a plus sa mère, eh bien on le met avec une autre mère et puis il grandit normalement. Non, je voulais surtout vous indiquer les dimensions de la discussion générale qui a eu lieu dans le Talmud au sujet de ce genre de prescription. Alors encore une fois, je vais le résumer pour que ce soit très simple, on oublie les détails. En fait, nous devons recevoir le commandement de la Torah a priori comme des décisions parce que encore une fois, si on ne connaît pas la vraie raison, on s'invente des raisons arbitraires. Et alors, ces raisons sont inefficaces. En général, ceux qui pratiquent une mitzvah, c'est jamais pour la raison qu'ils croient qu'ils se donnent à eux-mêmes. J'ai écouté souvent des explications, pourquoi on prie, pourquoi on pratique ça, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Ça n'a rien à voir avec Dharata Torah. Et seuls ceux qui étudient les Tarm et Torah peuvent manier ces concepts et ces problèmes. Quelle est l'intention du Créateur lorsqu'il a donné ces mitzvot. On n'étudie ça que dans la Kabbalah. Et alors, c'est la règle, quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. C'est ce que le Ramban veut indiquer. Et en général, il indique une raison pédagogique pour nous. Oui, il y a un problème de miséricorde pour la vie ou de cruauté, mais c'est nous que ça concerne. Ce n'est pas la relation entre Dieu et les animaux. C'est clair. Bien, alors donc, je vous rappelle que mercredi, il y aura cours, bien que je ne serai pas là. Et puis, on se reverra donc dans 15 jours. Et surtout, à la nuit Shavuot, on vous expliquera le programme de Shavuot. Alors, Shabbat Shalom.